Merci. Eh bien, ce soir, le titre de notre émission, la première partie, la presse en général, Radio Courtoisie en particulier. Ce sera le thème de l'éditorial d'Henri Foucrot. Mais présent dans les studios, nous avons M. Christian Buchet, universitaire, conférencier, auteur. Christian Buchet est professeur d'université, chercheur. Il a piloté notamment les 327 experts du Grenelle de la mer de 2009 à 2011 et milité et milite pour la création d'un ministère de la mer. Académicien de marine, directeur du Centre d'études de la mer et de l'Institut catholique de Paris, Christian Buchet a publié une vingtaine d'ouvrages et est l'auteur de nombreux rapports d'expertise. Son dernier ouvrage paru et dont nous allons parler principalement, car c'est le sujet qu'il va aborder, il s'agit, le titre de l'ouvrage, de Eudoxie Lascaris, princesse byzantine, sous-titre « Une femme libre dans l'Orient médiéval ». Tout ça est édité aux éditions de l'Harmattan, 29 euros, 23 euros en numérique pour les gens qui veulent se connecter et l'obtenir en numérique. Rappelons simplement le livre important qu'il a publié récemment, il y a 2 ans, « Osons la mer », un livre principal, une révolution maritime pour faire de la France la première puissance économique mondiale. Voilà.
On avait invité d'ailleurs Christian Buchet à l'époque, oui, pour cette affaire qui était quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est un honneur de vous avoir dans notre
studio. C'est un plaisir. Alors, très partagé.
Je vais,
l'auteur, c'est l'Harmattan et SPM, parce que mon éditeur va me dire, c'est vrai, il faut citer SPM aussi.
L'Harmattan, SPM, voilà.
Alors pourquoi aujourd'hui allons-nous traiter de livres d'abord, de journaux, de la presse ensuite? C'est parce que, et chacun peut le constater, l'audience diminue partout, sauf sur Radio Courtoisie, seule radio à gagner des auditeurs, mais on fait aussi ce qu'il faut pour ça. Mais toutes les autres, les grandes chaînes, télévision, radio, presse écrite, perdent des auditeurs qui s'en vont parce que c'est la mode, hein, qui vont autre part sur les réseaux. Alors je ne vous dis pas les manipulations qu'ils subissent. C'est pour ça qu'on traite aujourd'hui de radio, mais pas de n'importe laquelle, Radio Courtoisie, car nous fêtons, je parle de moi là, excusez-moi, je fête ma 20e année d'animation du Libre Journal de la France Libre. 20 ans, vous vous rendez compte? Oh là là là. 20 ans, et malgré le temps passé, cette radio me colle toujours au cœur et au cœur, comme le chante Laurent Voulzy. Comment pourrait-il en être autrement? Au moment où la presse en général est touchée au cœur, la télé moins regardée, la presse écrite moins lue, la radio moins écoutée, notre radio gagne chaque jour un peu plus d'auditeurs. Alors bien sûr, nos réseaux, Internet aussi, et surtout nos associations, sont des relais importants pour la diffusion de nos émissions que nous cessons et nous ne cessons de les dynamiser. La presse diminuée est toujours un danger pour les libertés, ce qu'elle n'est que lorsqu'elle est libre, et battons-nous pour qu'elle le reste. Quel outil ! Elle est un outil de liberté, de démocratie, de grandeur et d'honneur pour un pays tel que le nôtre. Chaque jour, chaque Français doit se poser la question de savoir si notre pays, si son pays, possède toujours une presse libre. Parce que le mondialisme imposé par des idéologues intéressés a fait que nos entreprises se sont délocalisées, le commerce a périclité, l'agriculture a été laminée, sans que les Français se soient beaucoup battus pour qu'il en soit autrement, laissant le politique tout abandonné. L'information, pivot de notre démocratie, pourrait aussi prendre ce chemin pour laisser la place à des plateformes étrangères, aux réseaux sociaux qui égrènent de l'information très manipulée, qui sert en priorité l'intérêt financier mondialisé. En vérité, à des gérants américains ou des gérants chinois. Alors, au service des auditeurs de Radio Courtoisie, pour défendre l'essentiel, 20 ans, cela peut être paraître un sacré bail, oui, mais qu'on aime d'abord, on a toujours 20 ans, et j'aime toujours Radio Courtoisie pour la liberté qu'elle procure. 20 années passées à dire ce que je pense, ce que j'espère pour mon pays, sans que jamais je n'ai reçu la moindre remontance, la moindre allusion. La liberté, c'est pouvoir dire ce que l'on doit dire au moment où il est important de le dire. Rappelons Voltaire, « Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Je me doute bien que je ne peux pas plaire à chaque fois et à tout le monde, mais on nous laisse nous exprimer. Merci Radio Courtoisie et vive la France. Je l'aime cette radio et comment pourrait-il en être autrement? Je vis et fais vivre une aventure dont il suffit de rappeler les événements. 2006, premier invité, Jacques Myard, qui est resté fidèle des fidèles. À ses côtés, Charles Pasqua, qui avait tenu à participer à notre première émission. Ce combat à mener était celui pour l'indépendance et la souveraineté de la France à l'époque. Nous participons, au sein du clan souverainiste, à l'écriture d'un livre en commun, La tragédie européenne et la France, avec Pierre Messmer, Étienne Burin-Desrosiers, l'ancien ministre Jean Charbonnel, l'amiral Debré, l'ancien garde des Sceaux Jean Foyer, Paul-Marie de la Gorce, Pierre Lefranc, collaborateur du général de Gaulle, l'ambassadeur de France Pierre Maillard, ancien conseiller diplomatique du général, Marie Gallois, général, père de notre dissuasion nucléaire, et Jacques Myard, député, avec votre serviteur, ont inscrit leur nom au bas du parchemin, édition François-Xavier de Guibert à l'époque. Sacrée carte de visite qui ouvre bien des portes, presque toutes ces personnalités étant venues dans nos studios. Notre micro nous sert à dénoncer certaines dérives. Les dépenses publiques, par exemple, qui sont passées en un temps record de 40,9% à 57% du PIB, mais aussi de 35% dans les années 60 à 57% aujourd'hui. Il nous sert à expliquer les raisons de ce naufrage qui font que la politique mondialiste libre-échangiste, le système des taux de change flottants et la déréglementation totale des mouvements de capitaux sont responsables, en définitive, de ce naufrage. Pas facile à dire. Pas facile à faire comprendre, pas facile à rentabiliser de tels propos jamais tenus par la presse en général. Mais Radio Courtoisie, qui ne vit que grâce aux dons de ses auditeurs, échappe à ce carcan intéressé, et heureusement, car il s'agit désormais d'organiser les conditions de survie de notre pays, la France. Alors nous nous battons contre les faiseurs d'abandon, et Radio Courtoisie est le seul relais capable de nous permettre de mener ces combats. La question que l'on pourrait nous poser, est-ce que nos interventions servent à quelque chose? Oui, je l'affirme, et il suffit de rappeler notre combat pour les eaux territoriales. C'est grâce à nos auditeurs que nous avons pu faire sortir le dossier des placards et obliger le pouvoir à négocier. Le premier ministre de l'époque a sorti ce placard et a sauvé le dossier. Depuis, la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Nous avons réussi à faire venir au micro de Radio Courtoisie notre ami Christophe Cher, qui est là devant nous, le député devenu sénateur Philippe Folliot, le député d'alors Jacques Melchior, celui de Mayotte Mansour Kamardine, et des auteurs comme Xavier Louis de l'équipe Chaban. Nos cris ont éveillé des gens qui laissaient faire par peur de ne pas être écoutés. Ensuite, il y a eu la TVA sociale. Henri Guénaud est venu à ce micro nous expliquer qu'il avait tenté l'expérience, sauf que Sarkozy, qui n'avait rien compris, avait fait ajouter de la TVA à la TVA, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais cela reviendra. Affaire Alstom, le libre journal de la France Libre fut le premier organe de presse à sortir Petrucci de l'anonymat pour l'installer devant un micro. Nous avons ainsi pu récupérer Alstom et les turbines Arabelle. Nos combats en faveur de la réindustrialisation de la France, aidés par Guy Jiquelot et ses équipes, l'agriculture, avec notre ami ancien ministre François Guillaume, mais avec lequel je prépare une attaque sérieuse contre l'euro. Rappelons notre réunion, l'euro de tout le risque, avec Marie-France Garraud, Couve de Mury, Charles Pasqua, Maurice Schumann qui me fait revenir dans ces milieux, Philippe de Villy, Henri Guénaud et Jacques Myard. Tous ou presque ont été nos invités au micro de Radio Courtoisie. Rappelons que ce fut notre émission qui a été la dernière à pouvoir interroger Madame Marie-France Garraud. La grande dame était déjà atteinte par sa terrible maladie. Les taxis, nous les défendons et dénonçons la tentative des fonds américains d'ubériser notre société. L'intelligence artificielle, nous poussons des jeunes comme Éric Lemaire qui me fit préfacer son dernier livre. Radio Courtoisie nous permet de nous battre pour l'indépendance de la nation. Alors, nous exprimons notre volonté pour un État fort, interventionniste lorsque l'intérêt général est menacé, libéral lorsque l'économie est au plus haut, aidé par un commissariat au plan. On en parlera un jour, mais je vous signale que la crise actuelle avec le pétrole, on n'est pas dans une crise pétrolière, on est dans une crise financière. En 73, nous payons, les gens de mon âge s'en rappellent, le pétrole à l'époque, moins de 2 euros le baril. Moi, on est compte un petit peu. Nous profitons du micro pour lancer nos combats. Le premier sera contre la domination d'une finance mondialisée, mais néanmoins américaine. Combien de fois ai-je pu dénoncer à ce micro l'anomalie du dollar, monnaie nationale, gérée par des autorités nationales à des fins nationales et qui sert d'étalon monétaire international. Je rappelle pour enfoncer le clou que pour vendre ses productions, les USA ont fait dévaluer le dollar de 8% en 2025 et d'au moins autant en 2026. Dictature financière acceptée par les mondialistes heureux et les européistes béats qui affirment toujours que l'euro nous protège, mais de quoi bon sang ? La monnaie européenne est vouée à rester notre monnaie régionale, alors que, souvenons-nous, notre franc œuvrait à l'échelon mondial. Une monnaie comme l'euro qui se dit forte dans un monde perclus d'inflation est un boulet, ce sera l'objet de nos prochaines interventions. L'ordre vient de repasser première composante des réserves mondiales. C'est une révolution à venir, avec quelques questions aux conséquences énormes à nous poser. Pourquoi, malgré les achats d'or massifs des banques centrales, le métal or a des tendances baissières? Et nous devons nous préparer aussi de la place que prend la Chine dans le monde pour pouvoir vendre en France des lunettes à moins de 50 euros. Cela pose quand même un sacré problème. Ma grande aventure, traversée grâce à Radio Courtoisie, qui me permit de rencontrer le prix Nobel de sciences économiques Maurice Allais, de travailler avec lui en tête à tête pendant des semaines afin de préparer une émission. Malheureusement, cette dernière n'a pu avoir lieu, le prix Nobel devenant difficile à maîtriser. Mais j'ai tellement appris avec lui. Constatons que nos combats ne sont pas vains. Nous n'avons jamais entendu parler d'une remise en cause du dollar. Reste à trouver le bon système monétaire international. Ensuite, la TVA sociale, l'une des raisons qui fait que nos entreprises se délocalisent ou perdent pied, provient du coût de la protection sociale. Nous demandons que son financement passe du monde du travail à celui de la consommation. C'est très étonné d'entendre Mme Borne aller dans ce sens il n'y a pas si longtemps que ça. Ne croyez pas que nous sommes là pour babiller, non mais pour agir et réussir. La dissuasion nucléaire, celle de la France, un de ses atouts, nous l'avons défendu bec et ongle avec ce micro. Le général Pierre-Marie Gallois, l'amiral Debré, le général Menu. Je me souviens de l'entretien de Pierre Messmer avec le général Gallois. Ils nous ont indiqué la route, nous nous sommes battus. Radio Courtoisie a servi de support. Nous allons continuer le combat et le libre journal La France Libre y prendra toute sa part. Notre principal problème est que l'euro est surévalué, qu'il faut combattre cette anomalie. Lorsqu'une monnaie est surévaluée, le niveau des prix et des salaires est trop élevé par rapport aux autres et la croissance disparaît pour laisser place à la stagnation puis à la récession. Autre combat nécessaire, la domination chinoise qui s'accélère à cause de l'autodestruction de la puissance des États-Unis. Peu en parle, mais c'est pourtant la vie de la France qui se joue là. Alors, comptez sur le libre journal de la France Libre, sur Radio Courtoisie pour mener ce combat. Je vous remercie. Monsieur, dites-moi, Monsieur Buchet, cet édito.
D'abord, bon anniversaire, Henri.
Merci.
Merci pour toutes ces émissions. Je vous accompagnais effectivement à quelques reprises, ça a toujours été un plaisir. Je me souviens en particulier de ce combat pour que la France prenne conscience qu'elle est la première puissance, premier domaine maritime au monde. On dit souvent c'est les États-Unis. Oui, c'est vrai, ils sont légèrement devant nous. Mais on l'a dit, les États-Unis ont 11 millions de kilomètres carrés de domaine maritime.
Tout à fait.
La France en a 11 millions aussi, avec quelques epsilon derrière, légèrement moins. Derrière, en troisième position, c'est l'Australie, avec 8 millions et demi. Il y a déjà 2 millions et demi de moins. Mais les États-Unis et l'Australie, c'est par la taille de leur métropole.
Tout à fait.
Nous, le domaine maritime français résulte à 96% de l'outre-mer. ce qui veut dire que notre domaine maritime est le premier parce que c'est le plus grand ex aequo, mais le mieux ventilé au monde qui soit. Alors je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une partie de bras de fer qui est très compliquée, avec une déstabilisation déjà depuis plusieurs années, il faut être très clair, de la Nouvelle-Calédonie par le biais de l'Azerbaïdjan, mais qui sert les intérêts chinois. Et depuis quelques semaines, eh bien, nous voyons des attaques venant des États-Unis à l'encontre de la Polynésie française. Donc, vous voyez, si des puissances comme la Chine et les États-Unis essayent de nous déstabiliser, c'est parce que c'est quand même pas anodin et que ce domaine maritime est porteur d'avenir.
Absolument.
À condition de faire quelque chose avec lui.
Je suis d'accord avec vous.
S'il n'y a pas de politique maritime ou suffisamment ambitieuse, eh bien, on va jouer perdant-perdant.
Ben, bien sûr.
Mais attention, les secondes sont comptées.
En tous les cas,
bon anniversaire, Henri. Je suis très content de vous
Alors,
retrouver.
Alors, en plus de ça, en plus de cet anniversaire des 20 ans de Radio Courtoisie, je rappelle le souvenir de notre première assistante, Lydie, qui nous a quittés parce qu'elle était malade. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a rappelé. C'était nos 20 ans. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est mon anniversaire à moi. Je n'ai que 87 ans, mais je l'ai quand même.
Double anniversaire et bravo. On va bien être comme ça.
Alors, dites-moi. Je vous invite aujourd'hui parce que vous m'avez envoyé un livre, Eudoxie Lascaris, princesse byzantine, une femme libre dans l'Orient médiéval. Expliquez-moi un peu ce qu'est cette princesse, parce qu'à mon avis, pas grand monde en France ne doit connaître.
Oh, ça c'est sûr, il y a encore peu, je ne la connaissais pas. Je suis tombé amoureux, figurez-vous, au dépit de 7 siècles qui nous séparent. En fait, si vous voulez, je suis un passionné de généalogie. Alors, je m'amuse à dire ça de manière un peu provocante, je suis pour une généalogie paritaire et égalitaire. Ça fait très tendance, hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le but n'est pas de faire une généalogie Christian Buchet, donc vous voyez, il n'y a pas de particules bien précises, loin s'en faut. Je ne descends pas de manière patrilinéaire, de père en fils, de fils en père, etc. Non, j'ai pris la généalogie comme un jeu. C'est-à-dire que, vous savez, on descend tous des mêmes. Si je prends le monde en l'an zéro de notre ère, il y avait 250 millions de terriens. Si vous ramenez ça à notre ère géographique, oh, Henri, on était à tout casser 100 millions de terriens. Donc pour peu que vous soyez un peu français depuis un certain nombre de générations, vous descendez des 100 millions. Donc le grand jeu, c'est de trouver le chemin pour descendre, à retrouver le point de passage, l'ascendance que vous pouvez. Et j'ai été frappé parce que dans cette généalogie, je vois une certaine Brigitte, pas Eudoxie, Brigitte Lascaris. Je fais des études d'histoire, hein, pour être professeur d'histoire. Je me dis, mais ça me dit quelque chose, Lascaris. Je suis un spécialiste de la marine, vous l'avez compris, non pas de Byzance. Et je me dis, mais c'est une princesse byzantine. Qu'est-ce qu'elle est venue faire chez nous? Et alors, j'ai poursuivi l'intrigue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la fille, Eudoxie Lascaris, de l'empereur de Nicée, Théodore II. Et quand son père décède en 1258, le petit frère d'Eudoxie, qui n'a que 5 ans, est destiné à régner, sauf qu'il y a un commène de service, cette grande famille qui va en quelque sorte faire un coup d'État. On va mettre du plomb dans les oreilles au petit frère et lui crever les yeux, donc bien sûr il est incapable de se guider, donc encore moins de guider son peuple. Et il y a deux sœurs, enfin un peu plus, mais deux sœurs qui sont encore présentes. Il faut s'en débarrasser, parce que pour peu qu'elle épouse un noble byzantin, en fait nous sommes dans l'Empire de Nicée, vous savez, on peut éventuellement parler de cette géopolitique qui est née à la suite d'une croisade, la quatrième croisade. Donc les deux filles, il faut s'en débarrasser. Et Nicée, à ce moment-là, s'allie contre Venise à Gênes. Et il y a un de mes ancêtres, effectivement, qui est allé là-bas, qui était le noble de passage. Et on lui a flanqué, lui qui est du haut de ses 50 ans, on lui a flanqué cette petite minette certainement très jolie de 13 ans, un gros compte en banque par le biais de la Banque San Giorgio à Gênes. Et le voilà qui emmène cette jeune fille de 13 ans, fille de l'empereur de Nicée, où ça? Chez lui, alors on n'est pas encore tout à fait en France, on est dans la France d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux dire? Dans l'arrière-pays niçois, c'est-à-dire dans la région de Tende et de la Brigue, de Sorge également, de Breil-sur-Roya, ces régions d'ailleurs, cette vallée très touchée par des catastrophes naturelles depuis ces dernières années. Et là, eh ben, écoutez, elle va vivre 17 ans, elle va donner naissance à 5 enfants. Oh, c'est pas très amusant parce que nous sommes à une époque très troublée. Elle quitte une région troublée, c'est encore plus troublé chez nous. Pourquoi? Parce que le frère de Saint-Louis rêve de devenir roi et roi de Provence. Donc il y a des guerres entre Gênes et puis la Provence. Et elle finit par ne plus en pouvoir au bout de 17 ans. Elle s'en va, alors c'est la fille quand même de Théodore II, empereur de Nicée. Elle a des parents qui sont... L'Espagne n'existe pas encore, donc dans les pays ibériques, dans les terres ibériques. Et donc elle part avec ses cinq enfants. Elle demande l'asile politique, et bien sûr qu'elle l'obtient, parce qu'en plus elle parle beaucoup de langues. Et puis elle vient pas sans rien. Elle a ramené quand même de Byzance, parce que de Constantinople, parce qu'elle s'est mariée d'ailleurs... à Sainte-Sophie, si vous voulez, avec cet ancêtre. Et donc là, elle ramène beaucoup de reliques, donc ça ouvre des ports. C'est l'époque où on construit des cathédrales avec des déambulatoires, parce qu'il faut que ça circule pour voir les reliques, parce qu'il y a un véritable succès. Et donc la voilà, je l'ai suivie sur les terres ibériques, où tour à tour, elle va devenir conseillère, puis espionne des rois ibériques, joue un rôle absolument considérable. On va même l'appeler l'élégante de Barcelone. Et elle va finir par monter un monastère, qui est le premier monastère exclusivement féminin dans les futures terres espagnoles ou catalanes. C'est le monastère de Montblanc. Alors, je suis professeur d'université, mais j'avais envie de l'approcher au plus près. Elle, cette femme donc, qui naît en 1258, j'ai pris ma voiture. Je suis parti de Tende-la-Brie, j'ai descendu cette formidable vallée de la Roya en essayant de trouver un certain nombre de traces d'elle. Elle est quand même restée 17 ans. Je suis bien sûr passé par Gênes où tout s'est joué. Et puis nous sommes sur toile de fond de la quatrième croisade. Une croisade qui reste un peu, une énigme. Cette croisade ne va pas s'emparer des lieux saints ou récupérer les lieux saints. Ça va être détourné de son but initial. En fait, cette croisade va prendre Zadar dans l'actuelle Croatie et s'emparer. En fait, nous sommes en 1204-1205 de Constantinople, l'Istanbul d'aujourd'hui. Donc j'ai essayé de comprendre tout ça. Donc avec ma voiture, je suis arrivé à Venise parce que c'est là où tout s'est joué. En fait, cette quatrième croisade, les chevaliers ne veulent plus aller par voie terrestre. Ils veulent aller par voie maritime. Ils ont donc noué des accords avec Venise. Ils arrivent tous à Venise. Il n'y a pas suffisamment de croisés au rendez-vous. Donc le vieux doge de Venise, Enrico Dandolo, qui est un vieux briscard, qui sait faire. Il a à peu près votre âge, Henri, à 2 ans près. Il dit, écoutez les amis, le compte n'y est pas. Donc, ou vous me trouvez de l'argent, ou je ne peux pas vous transporter. Alors, l'hiver passe, les chevaliers commencent à se poser un certain nombre de questions. Il n'est pas question d'annuler la croisade, parce que c'est très pratique, vous savez, la croisade. Ça permet de mettre ses biens matériels, temporels, à l'abri du roi de France. Donc, ceux qui sont partis en croisade, sans doute, est-il très pieux, mais c'était aussi pour ne pas subir un certain nombre de sanctions du roi de France et mettre... conserver, en quelque sorte, leurs biens. Donc, pas question de revenir. Et donc, le doge, Enrico Dandolo, dit, écoutez, les amis... votre va marcher. Nous, on a besoin de Zadar, on a un conflit avec Zadar. Allez, on vous embarque, on vous fait une ristourne, et puis en passant, on prendra Zadar. C'est ce qui s'opère. Ils prennent Zadar, et puis à Zadar, ça devient plus compliqué. Le doge de Venise réussit à les pousser à aller jusqu'à Constantinople. Donc, les voilà partis à Constantinople, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout un tas de délibérés, ils vont parler pour parler avec l'empereur de Constantinople, ils vont pas s'entendre, et voilà que nos croisés vont s'emparer de la principale ville chrétienne de l'époque, Constantinople. Mais ça a eu des conséquences considérables. Oui, pourquoi? Parce que c'est la dislocation progressive dans le temps de l'Empire latin de Jérusalem. Parce que tous ces croisés, ils vont pas pouvoir forcément revenir. Donc ils vont se tailler des morceaux. Chacun va vouloir un morceau, en quelque sorte, de cet empire. Chacun va vouloir être à la tête, en quelque sorte, d'une partie des terres. C'est-à-dire que l'islam, ça mettra 2 siècles. Mais l'islam va pouvoir grignoter un par un, parce que vous n'avez plus une unité, tous ces territoires. Et donc, cette quatrième croisade de 1204 explique tout à fait, même si ça met un peu plus de 2 siècles, ce qui se passera en 1453. Tout le monde sait ici que, bien sûr, c'est la chute de Constantinople. Et puis, le coup est lancé. Et en 1686, vous avez les musulmans qui sont devant Vienne. D'ailleurs, le croissant vient de là. C'est lorsque Vienne a été abandonnée par les musulmans que, du coup, en profitant sur les réserves restées, on se met à faire des croissants pour les manger au petit déjeuner, puisqu'ils étaient partis de bon matin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus d'empire, plus d'empereur à Constantinople, et un proche de l'empereur, qui était la famille Lascaris, ils vont de l'autre côté, ils vont fonder un empire de substitution qu'on appelle l'Empire de Nicée. La ville de Nicée, célèbre, il y a eu des conciles œcuméniques, etc. C'est la ville d'Isnique aujourd'hui. Donc, avec ma voiture, je suis parti de Tende, me voici à Venise, où j'ai découvert à quel point cette prise de Constantinople en 1204 est encore très présente. Les chevaux du quadrige Alors maintenant, ils sont plus sur la basilique Saint-Marc parce qu'ils ont été impulsés par le temps. On les a mis à l'intérieur. D'ailleurs, ils sont venus faire du tourisme à Paris. Napoléon Bonaparte les avait ramenés. Et puis au congrès de Vienne, ils retournent là-bas. Les chevaux du quadrige, c'était les quatre chevaux qui étaient en quelque sorte sur le faîtage du grand hippodrome de Constantinople.
Ah oui.
Et puis, Venise ne cesse de marteler qu'elle a bien conquis Constantinople, qui est la grande puissance maritime du moment. On ramène des superbes colonnes en porphyre, mais on met le lion vénitien dessus. Il met ses pattes dessus, montrant que Venise terrasse, appuie. Et puis, j'ai trouvé cette fameuse icône, la Madonna Nicola Appia, qui était la fameuse icône qu'on promenait dans les rues de Constantinople, qu'on montrait à des milliers à travers les siècles, si vous voulez, de soldats, en quelque sorte, byzantins, avant d'aller combattre, qui est toujours à Venise, dans la basilique Saint-Marc. Et puis, de là, il fallait bien sûr rallier Constantinople, Istanbul. Donc, j'ai continué la route, je suis arrivé, bien sûr, à Constantinople, où là, j'ai essayé de trouver des traces de Doxy, qui, en présence du nouvel empereur, Michel VIII, eh bien, s'est marié avec ce comte de basse extraction, qui était, en quelque sorte, un laborieux de passage. Et puis après, ben, j'ai traversé le pont et je suis allé sur les terres de Nicée à sa rencontre, essayer de trouver des traces de sa jeunesse, qui s'est passé. C'est-à-dire refaire toute l'histoire précédant cette quatrième croisade, cet empire de Nicée qui s'est constitué. Et puis je suis remonté parce qu'elle était parente, en fait, c'était la petite fille du tsar, comme on disait, non pas de Russie, mais du tsar de Bulgarie. Donc je suis remonté par la Bulgarie. La Bulgarie, c'est la Hongrie. Et en fait, toutes ces familles impériales, ils étaient tous cousins. Et donc, j'ai essayé d'approcher toute l'ascendance d'Eudoxie jusqu'à revenir, eh bien, à Tende et la Brigue. Et puis là, il fallait continuer sur les routes espagnoles.
Oui, en dites-moi, c'est quand même un monde qui est en train de se couper en deux.
Alors,
comment ça s'est fait? Le monde chrétien, on comprend, parce qu'on le connaît d'abord. Hein. On sait qu'il existait. Mais l'autre, comment a-t-il pu évoluer à cette vitesse?
Alors, c'est intéressant parce que... Je dirais, cette femme a connu, je dirais, le grignotage en quelque sorte par l'islam progressif qui allait découler de 1204. Elle naît, elle, une trentaine d'années après. Et par contre, lorsqu'elle arrive en Espagne, c'est la Reconquista, c'est la fin de la Reconquista espagnole. C'est-à-dire que là, la chrétienté chasse bout d'or l'islam. C'est-à-dire qu'autant elle voit, je dirais, la menace qui se rapproche du côté oriental, autant du côté espagnol, on a le sentiment d'être dans une frénésie joyeuse parce que l'islam est bouté, on récupère des terres, on édifie des cathédrales, on amène des reliques, c'est tout à fait passionnant. Et à travers tout ça, on a le sentiment de rentrer dans un nouveau monde, c'est tout à fait intéressant, dans lequel elle va jouer un rôle, et puis d'ailleurs un rôle politique, parce que comme je l'évoquais, elle va espionner pour les uns, pour les autres, mais elle va surtout être conseillère.
C'est la Matahari de l'époque.
C'est absolument la Matahari de l'époque. Et puis, elle a des enfants qui sont assez étonnants, qui vont tous faire des grands mariages, et elle a... une de ses filles qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Batazza, et qui a été la dame de compagnie d'Isabelle, qui va devenir, une fille du roi de Catalogne, qui va devenir Sainte Isabelle, c'est-à-dire l'épouse du roi portugais Denis Ier. Et donc, on a aussi des histoires au sein de l'histoire, mais c'est passionnant de voir comment une femme de 13 ans va parcourir, on pourrait dire, le monde entier, parce que nous sommes bien sûr avant la découverte de l'Amérique, je ne vous parle pas de l'Australie, le monde entier, à l'âge de 13 ans, va venir vivre chez nous, va jouer un rôle politique avec une simplicité, et puis, in fine, va édifier ce monastère de Mont-Blanc, qui a été longtemps le monastère, je dirais, sur les terres ibériques, le plus visité. Donc une femme touchante, qui nous permet de voir notre histoire. C'était intéressant aussi de retrouver ces traces sur la terre, si vous voulez, de Tende, Sorges, Braye, l'arrière-pays niçois. Vous êtes d'ailleurs à Nice, un formidable palais Lascaris. C'est un de ses descendants qui était grand maître de l'ordre de Malte. Il y a quelques bourgeons, en quelque sorte, de l'orthodoxie, encore qui existe là. Il y a beaucoup de Saint-Michel, avec plusieurs formes de dragons. J'ai essayé de trouver sa tombe. Malheureusement, elle était emportée par le fleuve en Espagne. Mais j'ai réussi à retrouver, c'était une énigme, une gravure la représentant. Non pas directement, parce que, encore une fois, c'était troublé, mais à travers les traits de la Vierge. On voit la Vierge épousant quelqu'un de beaucoup plus âgé. Bon, peut-être que Joseph était un peu plus âgé, mais avec les coiffures, si vous voulez, à la byzantine, le diadème, tout en étant rouge, etc. Et à l'évidence, il y a également un autre tableau qui montre que c'était elle. Donc ça se trouve dans une chapelle privée, je ne dirais pas le nom, qui est extraordinaire, qui se trouve à Sorge, donc dans l'arrière péninsois. Donc vraiment une figure qui m'a emporté dans cet Orient que je ne connaissais pas. Donc je lui suis gré, parce qu'ayant toujours travaillé sur les logistiques, sur l'histoire économique, sur l'histoire maritime, bah écoutez, je connaissais que ce que mes souvenirs d'il y a bien longtemps me laissaient, revenaient en quelque sorte sur Byzance. J'ai découvert ce monde byzantin. Et puis, vous savez, ça a été quand même un parcours géographique. Parce que pour y aller, j'ai pas pris les autoroutes, ça n'existait pas à l'époque. Quand on prend les autoroutes, c'est pas du tout les paysages qu'on voyait à l'époque. On coupait pas des massifs, on coupait pas. Non, non, on suivait les, parce qu'on faisait 30, 40, 50 kilomètres, on suivait les fleuves, etc. Donc, je me rends compte qu'il y a un autre tourisme possible qui consiste à prendre des itinéraires bis. Un exemple. Bon, son grand-père, donc, c'était le tsar de Bulgarie, la capitale bulgare à l'époque. Du deuxième royaume bulgare, c'était Veliko Tarnovo. Alors bien sûr, je suis allé à Sofia, passionnant Sofia, mais s'il faut aller surtout à Veliko Tarnovo, personne ne connaît, c'est totalement intact parce qu'ils ont tellement mis ça dans un creux de montagne que c'est difficile d'accès, je peux vous le garantir, pour avoir emmené ma vieille voiture là-dedans, c'est une route pourtant de passage avec des camions partout qui risquent à tout moment de vous engloutir. Il y a bien d'autres choses que nous ne connaissons pas. Et moi qui suis historien, j'ai vraiment le sentiment d'avoir découvert l'histoire en me plongeant dans la généalogie. C'est passionnant parce que vous pouvez déceler à travers... D'abord, c'est très facile aujourd'hui. Je suis pas un fan de l'informatique. On peut peut-être éventuellement parler de l'IA. Il y aurait beaucoup à dire au niveau de l'enseignement. Et l'IA aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Mais Internet, aujourd'hui, il suffit que vous connaissiez, vous savez, les dates de naissance, les prénoms, bien sûr, de vos... grands-parents, ou plutôt vos arrière-grands-parents, le lieu où ils ont vécu, il y a tellement d'arbres généalogiques qui ont été faits, très probablement des personnes ont déjà travaillé sans le savoir sur votre propre ascendance, il suffit que vous mettiez votre tige de rameau et vous allez découvrir des choses. À quel moment l'on s'est signé dans votre famille ? À partir des registres paroissiaux, donc ça en dit long. On peut voir les naissances. Si vous épluchez effectivement les registres paroissiaux, vous verrez à peu près quelle est la période de naissance dans vos familles. En vous intéressant à l'ensemble des documents, les parrains, les marraines, vous allez pouvoir reconstituer des réseaux d'amitié, etc. C'est passionnant. Et j'incite parce que c'est un bon moyen de découvrir l'histoire, s'amuser. Faire sa généalogie, c'est très facile. Ça ne suppose plus d'aller passer des heures, comme on le faisait autrefois dans les bibliothèques. Donc c'est un peu ce mélange, à la fois d'une biographie sur cette personne qui m'a envoûté avec ses parfums d'Orient, Eudoxie Lascaris, cette princesse byzantine, et puis ce journal physique, géographique, qui m'emmène de Tente, si vous voulez, jusqu'à Constantinople, et puis en revenant, pour aller finalement jusqu'à Coimbra. Jusqu'à Coimbra, là, nous sommes en terre portugaise, parce que c'est là où sa fille Batatsa, dont j'évoquais à l'instant quelques éléments, est enterrée dans un sarcophage avec le double aigle impérial, en quelque sorte. Et à Tende, c'est toute petite ville de Tende, si géopolitique, parce que c'est la route du sel, c'est le col de Tende, et bien par ce mariage de Guillaume-Pierre de Vintimille avec Eudoxie Lascaris, vous avez le double aigle bicéphale, et vous y allez toujours, j'y vais régulièrement, parce que ça a beaucoup de charme, en plus la ville de Tente, vous avez pavoisé du moins au printemps et l'été, un peu partout le drapeau, le blason rouge vertical, rouge et jaune des Vintimille avec dessus le double aigle bicéphale. Donc c'est un peu notre histoire, revisiter l'histoire, puis ça manque pas de coups d'épée avec le frère de Saint-Louis, là, ce comte de Provence.
Je profite de ça, vous avez parlé bien sûr d'Anjou, le frère de Saint-Louis. Quelle a été la position de Saint-Louis vis-à-vis de cette montée de l'islam ? Il n'a pas pu l'ignorer, quand même.
Il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas médiéviste, je suis un moderniste, il n'y a pas eu beaucoup. Ici, il y a eu cette fameuse croisade, etc.
Oui, bien sûr.
Cette pression. Mais il n'y avait pas encore une remontée, véritablement. Elle va se produire un peu plus tard.
Hein. C'est quand même étonnant, oui, un peu.
Mais c'est...
Un peu très étonnant, d'ailleurs. Parce que...
Mais intéressant ces croisades sous un autre œil, parce qu'il y a des côtés, effectivement, comme dans toute opération humaine, qui sont plus contestables que d'autres, mais ça a été en termes d'échange, en termes de découverte, un enrichissement culturel, intellectuel, voire même économique, qui a été tout à fait intéressant.
Qu'on n'ose pas quand même dire actuellement.
C'est certain, c'est moins tendance, mais dans le mot croisade, ça montre que c'est pas que du religieux non plus.
Oui, oui.
De voir cette quatrième croisade qui n'ira jamais au lieu saint, mais qui va s'emparer de l'Empire. Et en fait, c'était quoi la visée de Venise? C'était de s'emparer du sceptre de Neptune de Constantinople.
Oui. Mais oui.
Ils vont récupérer les échelles maritimes, comme on dit, c'est-à-dire les principaux ports. Et à partir du moment où Constantinople chute en 1204, bon, c'est repris par Nicée en 1261 et reperdu, bien sûr, en 1453, c'est évident que c'est le développement de Venise. C'est-à-dire ce haut fait provoque l'explosion, en quelque sorte, de la fameuse Sérénicée qui va se marier avec la mer et qui ne cesse d'ancrer sa domination sur Byzance. Donc c'est vraiment une très belle histoire qu'on méconnaît.
Oui, c'est ça.
J'ai toujours été emballé, moi, quand j'étais gamin, par les romans, mais ces grandes fresques, en quelque sorte, historiques, et j'avais envie d'en vivre une. Et pour la vivre, il n'y avait pas d'autre chose, parce que je restais dans les livres, mais il fallait aller sur place, sentir, humer les odeurs, voir les couleurs, et c'était un formidable voyage que je souhaitais faire partager. C'est pour ça qu'il y a 171 photos à l'intérieur, et je remercie mon éditeur Éric Ledru de SPM, parce que c'était un gros risque, et je crois qu'on est parvenu à quelque chose d'assez attractif qui donne envie d'y aller.
Oui.
Et qui donne envie de faire la généalogie. Oui. Pour vous montrer, Henri et Alain, à quel point tout se tient, je me suis dit, encore une fois, nous descendons tous des mêmes. Le jeu, c'est de trouver le chemin permettant d'arriver à la personne. Bon, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas, ça pourrait être amusant à montrer, une personne célèbre, bon, pas politique, parce que ça sera sujet à caution, etc., mais quelqu'un qui est un peu mondialement connu, donc pas forcément français. J'ai pensé une chanteuse, une dame, parce que Doxy est une femme. J'ai pensé à Céline Dion.
Pourquoi pas?
J'ai trouvé le chemin. Céline Dion, qui va venir chez nous prochainement, si elle m'entend, mais écoutez, en tant que cousin de Céline, si elle pouvait penser à m'envoyer une place, j'en serais absolument honoré. J'ai essayé de faire parvenir le livre, mais enfin, vous savez, c'est loin quand même, l'Amérique. Eh bien, Céline Dion descend d'elle. J'ai reconstitué toute toute la généalogie de Céline Dion que j'ai mis dans l'annexe 1. Elle descend bien de Doxy, sans doute l'ignore-t-elle encore, mais c'est dommage, parce que c'est une personne tellement formidable, étonnante, détonnante, que je pense qu'elle en serait flattée et qu'elle n'hésitera pas, dès qu'elle aura le livre, à m'inviter.
En fait, si je vous suis, on descend tous pratiquement des mêmes personnes.
Et oui, Christian Sitipani, qui est un universitaire, qui est un spécialiste de la généalogie, qui a quasiment montré que 30 à 40% de la population européenne de souche descend de Charlemagne. C'est évident. Encore une fois, on fait un slalom géant, on sort des Jeux Olympiques, on fait un slalom géant. L'amusement, c'est de trouver effectivement ces chemins d'éternité, quelque part. Nous descendons tous des mêmes. S'il y avait vieil Adam, il y a de fortes chances que nous descendions lui. Alors peut-être qu'Adam descend de singe, je ne sais rien. Après, on peut remonter loin. Mais nous sommes tous cousins, quelque part. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, il y a les histoires de famille, parce qu'on est tous cousins, mais qu'est-ce qu'on se met sur la tête, un coup d'épée, un coup de tranchant, un coup de hache, etc. Donc, quelque part, c'est vraiment de la géopolitique. Et c'est intéressant de sortir d'horizon. Vous savez, on parlait de malaise, la difficulté de lire, mais je suis très sensible à la lecture et je partage votre analyse, votre très belle éditoriale. Moi, je suis frappé aujourd'hui, les étudiants ne lisent quasiment plus. Quasiment plus. Alors c'est ce que je leur dis. À la limite, faites-vous plaisir. Lisez n'importe quoi. Lisez. Parce que quand vous lisez, qu'est-ce que vous faites? On fait ce qu'on disait autrefois de l'analyse grammaticale.
Absolument.
C'est-à-dire, il faut repérer les mots. Donc les mots, il y a un blanc avant, un blanc arrière. Et puis il faut d'abord retrouver les syllabes. Après, pour lire une phrase, il faut trouver le segment à lire. Donc où est le point, un blanc, la capitale qui fait le début de mon segment, le point final, un blanc, donc ça y est, j'ai repéré mon segment. Quand j'ai mon segment déchiffré, il faut que je trouve les verbes. Une fois que j'ai les verbes, qu'est-ce qui, où est le sujet, les COD, et si je lis du Proust, il y a combien de wagons de circonstanciel. Si on ne fait pas le job en un quart de seconde, on ne comprend pas ce que vous déchiffrez. Vous qui écoutez, vous comprendrez, mais la personne, non. Donc on voit bien que, qu'est-ce que c'est lire? C'est prendre du recul. Aucun mot n'est intelligible en lui-même. C'est la prise de hauteur, c'est la prise de recul qui va donner l'intelligibilité. C'est-à-dire que quelque part, ça développe le sens du rationnel, le sens du recul, le sens de la synthèse. Et donc, mieux vaut lire n'importe quoi que d'écouter une émission sur Kierkegaard, l'existentialisme chrétien, sur une très bonne chaîne à 23h40.
Oui.
Le même texte lu et entendu n'a pas le même impact en termes de structuration mentale. C'est d'ailleurs intéressant, on sait aujourd'hui que avant que nous soyons dans une civilisation de l'écrit, on était dans une civilisation de l'oralité qui développe des qualités, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Quand vous êtes dans l'oralité, les choses sont beaucoup plus floues, on est beaucoup plus dans l'émotion, la passion, la pulsion, c'est pas critiquable, hein. Que vous êtes au Moyen-Âge, vous êtes seul dans votre maison, vous entendez le parquet grincer, une chouette ululer, c'est un peu ce que j'ai découvert, et que donc si je me suis plongé dans cette période médiévale, j'ai fait un formidable voyage dans le temps, vous allez imaginer plein de choses. Il y a une thèse qui est sortie récemment qui nous a montré que le monde de Walt Disney, le célèbre inventeur de Mickey, s'est largement inspiré pour la plupart de ses personnages des tableaux du peintre médiéval Guillaume Bosch. Donc on voit, on était beaucoup plus dans la passion, l'émotion. Quand on est dans l'écrit, bah, on est beaucoup plus rationnel, le sens de la synthèse. Quand on dit aux étudiants combien de fois ne l'ai-je pas, comme beaucoup de mes collègues, marqué des connaissances, mais l'analyse n'est pas suffisamment approfondie. Ça veut dire quoi? L'analyse n'est pas suffisamment approfondie. Bah, ça veut dire que vous ne faites pas suffisamment de musculette, de musculation intellectuelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour parler clairement, vous ne lisez pas suffisamment. Plus vous lirez, plus vous aurez du recul, plus vous pouvez mettre les choses en synthèse, et plus, en quelque sorte, vous aurez une vision propre et autonome. C'est ça le drame de nos jeunes aujourd'hui. C'est que le seul écrit, je suis pas sûr que ça soit un écrit, sont les SMS, c'est ce qu'on fait autour de 500 mots. C'est ça le fond du problème. Avec aujourd'hui quelque chose qui me préoccupe un peu, l'IA, il y a à prendre et à laisser. Mais aujourd'hui, les étudiants utilisent de plus en plus l'IA, on peut pas leur reprocher. Mais il faut pas utiliser l'IA et se dédouaner du travail. J'ai eu cette année des étudiants qui m'ont fait des exposés sans comprendre ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que l'IA a fait un texte qu'ils se sont mis à lire. D'abord, quand vous lisez un texte, vous intéressez pas votre public parce que votre voix tombe sur la feuille, vous regardez pas votre public, donc il va vite partir ailleurs. Bon, avec des mots qu'ils ne comprenaient pas. On peut se servir de l'IA à condition de vérifier ses sources, parce que là aussi, c'est la propagande, c'est la désinformation que vous évoquiez tout à l'heure, cher Henri. Mais après, vous transposez ça sur un plan détaillé sur lequel vous allez chercher vos mots, ce qui vous permettra d'avoir un débit beaucoup plus lent, de mieux attirer votre public et surtout de mieux le garder. Ils ne le font pas. Et puis, c'est vrai que nous avons aussi notre part de responsabilité. Il y a tellement d'étudiants, il y a tellement peu de semaines. On nous a forcés à semestrialiser. Vous savez, il y a quelques longues années, mais un semestre, c'est pas 6 mois en université. C'est 11 semaines. On est bien d'accord sur le sujet. Après, il faut faire les examens, le rattrapage, le machin, le ceci, cela. Si bien qu'on n'a pas le temps de faire des examens de 4 heures, des écrits. Là, on fait de plus en plus des oraux, ce qui n'est pas mauvais, parce que lorsque l'étudiant en face ne sait pas du tout, ça permet d'avoir une vraie discussion. Oui. Vous voyez, on quitte le sujet et ça permet d'aborder d'autres types de fondamentaux. Donc oui, c'est vrai que l'écrit, c'est quelque chose qui est passionnant. Et c'est aussi ce que j'avais envie de faire pour mes étudiants, parce que plutôt d'écrire une biographie sur quelqu'un qui m'est sympathique, bah, j'avais envie de raconter, je me prends pas pour Indiana Jones, hein, je vous rassure quand même, mais j'avais envie de vivre, de me rapprocher de cette personne. C'était presque, peut-être pas un voyage initiatique, mais c'était en tout cas une quête qui m'a tout à fait séduit et qui m'a fait découvrir quelques bribes, quelques éclairs sur ce qu'était le monde de l'époque médiévale, un monde qui n'est pas le nôtre, un monde qui nous fait voyager et qui peut nous faire rêver et comprendre aussi pourquoi on en est là aujourd'hui.
Oui, hein, certainement.
Mais c'est vrai qu'il faut des photos, hein, encore une fois. Merci à Eric Ledru.
Je pense que pour aimer lire, il faut des orateurs quand même. Je vais signer quelque chose. Il y a quelqu'un qui un jour avait fait un texte sur un dépôt de brevets. Les brevets devenaient européens, ne devenaient plus français, etc. Le gars nous a fait un texte que j'ai lu, relu. J'ai pas compris. Et il y avait à l'époque Jean Foyer, qui était l'ancien garde des Sceaux. Je lui pose la question. Un quart d'heure, il nous explique ce que c'était. Un quart d'heure, on a tout compris. Un quart d'heure, on a eu l'envie de relire et de comprendre ce qui avait été écrit.
Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, je pense. Vous voyez,
oui.
Nous sombrons, excusez-moi, j'utilise souvent le vocabulaire maritime par des formations professionnelles, mais nous sombrons dans le court-termisme.
Absolument.
Et je ne peux pas m'empêcher, je gâche un peu le plaisir, je dirais, onirique autour d'Odoxy, mais force est de constater que seuls les États autoritaires, pour rester pudiques, ont une stratégie de moyen terme. Et aujourd'hui, j'interviens souvent dans les médias sur les questions géopolitiques, mais j'ai décidé de moins le faire, parce que j'en ai marre de commenter des queues de poire. Est-ce que le bouchon du détroit d'Ormuz va se déboucher? Oui, quand, comment? Moi, ceux qui répondent, ils ont bien de la chance, hein, parce que franchement, personne n'en sait rien, hein, très honnêtement. Mais il faut commenter l'actualité avec des sous-titres, avec des points d'interrogation pour faire régner le suspense, parce que le suspense, c'est l'audimat assuré, c'est donc des retombées publicitaires assurées. Il faut prendre du recul. On ne peut pas séparer ce qui se passe en Iran de l'Ukraine, de ce qui se passe en Chine, de ce qui se passe aux États-Unis. En fait, la géopolitique, c'est prendre du recul. Et on ne prend plus de recul, y compris au niveau des revendications. C'est ce qui explique aussi peut-être la situation budgétaire dans laquelle nous sommes. Et encore, nous avons une croissance qui ne sera pas au rendez-vous, donc le déficit budgétaire va malheureusement encore se creuser.
Ce n'est pas à vous que j'ai expliqué ça, mais pour prendre du recul, il faut connaître l'histoire.
Eh oui. Et même sa propre histoire, la généalogie, encore une fois, c'est un bon moyen, comme la bande dessinée peut vous initier à la lecture.
Je vois aujourd'hui, dans le monde, hein, je ne parle pas de la France, dans le monde, les chefs d'État qui gouvernent, j'ai quand même quelques doutes sur leur capacité intellectuelle et ce qu'ils ont pu emmagasiner.
C'est l'immédiateté, c'est l'élection prochaine, celle des mid-term.
C'est ça, voilà.
Mais... Face à l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'on restera dans l'histoire? C'est pas forcément une guerre. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. On nous bassine, et à juste titre, sur ce qui se passe en Ukraine. Mais il a fallu attendre 3 ans, presque 4 ans, pour découvrir qu'en Ukraine, il y avait des terras, aussi, non,
c'est
fait stratégique, etc.
C'est
pas le fait du hasard, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un partage presque... en accord entre les deux superpuissances, entre les États-Unis et la Chine, avec chacun ses zones en quelque sorte de protection. J'ai eu le privilège de partir pour le Quai d'Orsay récemment à Taïwan. Il se passe de drôles de choses.
Ah oui.
Vous savez, Taïwan a été inscrit dans le concert des nations parce que c'est à Taïwan où on fabrique 82% des microprocesseurs les plus sophistiqués. Donc la Chine, qu'il qualifie là-bas... de populaire a besoin de Taïwan et les États-Unis ont besoin de Taïwan. Donc le Chinois sait très bien qu'il ne peut pas risquer de prendre Taïwan parce que les États-Unis en ont besoin. Sauf que depuis 2 mois et une semaine, le président des États-Unis, le président Trump, a décidé qu'il fallait que les États-Unis ramènent chez eux ce savoir-faire de la plus haute technologie. Notre ambassadeur là-bas nous dit qu'il faut 6 ans à peu près pour parvenir à ça. Mais c'est un message qui a été envoyé à la Chine. Laissez tomber Taïwan, vous l'aurez dans 6 ans, parce que de toute manière, dans 6 ans, Taïwan n'aura plus, je dirais, la même importance pour nous. Si bien que d'ailleurs que les Taïwanais s'estiment complètement lâchés.
Ah oui.
D'où le fait que la France, l'Allemagne, essayent de mettre les pansements, on essaye de resserrer les liens. Mais on voit bien que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes dans un, on en a déjà parlé sur votre antenne, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire, qui est
Absolument.
Le troisième temps, qui est le temps de l'océan mondial. Pourquoi? Parce que c'est, on pense toujours la mer de la même manière à travers 5000 ans d'histoire, c'est-à-dire comme un rideau bleu, tant qu'à faire, à l'horizontale. Mais attendez, la mer, elle a pas qu'une dimension, la surface, elle en a 3 autres. Dessous, c'est la tranche d'eau. Il y a plein de choses à découvrir, en sachant que le monde de la mer, c'est l'infiniment petit. On ne connaît pas plus de 1 à 3 % de la microbiologie marine. Troisième dimension de la mer, ce sont les terres recouvertes par la mer, les terres immergées, qui représentent 72 % des terres de la planète Terre. Et on peut se lancer depuis 4 ou 5 ans à une quatrième dimension de la mer, après la surface, la tranche d'eau, les terres. C'est la biodiversité, c'est le sous-sol terrestre marin. En gros, la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente et plus riche même que la biodiversité du sous-sol terrestre. Donc, sans la mer, le Grenelle de la mer l'avait bien montré, sans la mer, on ne passe pas. Et avec un peu d'intelligence, de prise de recul et d'analyse, on peut parfaitement concilier développement économique et développement durable, que je préfère qualifier de développement désirable. Donc, quand on dit que la France a plus de 11 millions de kilomètres carrés, comme l'a dit un jour une ministre avec laquelle je m'entendais plus que modérément, que d'eau. Alors, mais oui, on ne va pas discuter là-dessus, hein, mais il n'y a pas que de l'eau.
Non, il n'y a pas que de l'eau.
Pourquoi la Chine aujourd'hui est fragilisée quelque part? C'est que la Chine est dépendante du Brésil. C'est absolument la base arrière du développement économique chinois. Ça se dit pas, mais ça se constate.
Ce que les gens ne savent pas.
D'où l'importance du canal de Panama.
D'où
les déclarations du président Trump il y a quelques mois. Ils sont pas gentils, les gens du Panama, parce que c'est nous qui l'avons fini, effectivement. Nous, Français, on s'est vautrés. C'est un canal un peu compliqué, le scandale de Panama, etc. On s'en souvient, on l'a appris à travers l'histoire.
Une sacrée affaire,
oui. Les Américains l'ont fini, on l'ouvre en 1914. Sauf qu'effectivement, les Chinois se sont dotés de certaines garanties, allant jusqu'à faire comprendre au Panama que s'ils n'obtenaient pas ces garanties, mais ça peut se comprendre du point de vue chinois, c'est le cordon ombilical de l'alimentation qu'ils feraient avec le Nicaragua un autre canal.
Mais bien sûr.
Au niveau du détroit de Malacca, qui sont des États proches des États occidentaux, les Chinois ont dit, écoutez, si vous ne donnez pas des garanties, parce que c'est fondamental, c'est vital même pour nous, écoutez, on est presque d'ailleurs d'accord, disent-ils, avec les Thaïlandais, au niveau de la péninsule de Kra, une péninsule très étroite, on pourrait faire un autre canal là, on n'aurait plus besoin de descendre plein sud pour remonter plein nord en prenant le canal de Panama. Donc aujourd'hui, la Chine a une stratégie. Et ce monde est en train de se dissocier, de se segmenter en deux zones d'influence. La zone d'influence américaine, c'est-à-dire tout l'Amérique, le golfe du Mexique, dixit le président Trump, c'est le golfe de l'Amérique. Et vous savez, la pire vacherie que Trump a, son arme nucléaire à lui, c'est peut-être un jour, s'il devait y avoir un fort différend avec la Chine, c'est d'expliquer au Brésil, écoutez, nous, grands frères américains du Nord, on va vous aider à ne pas vendre vos bijoux de famille, parce que c'est pas ça qui crante un développement économique, on va vous aider à transformer ces matières premières en produits semi-finis, voire finis, ce qui va vous développer. Mais c'est évident que ça poserait les pires problèmes à la Chine. Certains de nos auditeurs doivent se dire, mais il y a l'Afrique. Oui, mais l'Afrique, faut pas arriver quand même. C'est jamais que 10 à 12% des matières premières. D'où la nécessité pour la Chine d'avoir une grande partie de la mer de Chine. Et au moment où nous parlons très agréablement, enfin j'espère que c'est agréable pour nos auditeurs, ils sont en train de faire des îles naturelles, artificielles. Deux adjectifs qualificatifs qu'on marie rarement ensemble, c'est-à-dire des îles faites avec des produits naturels, mais fabriquées artificiellement par de haut fond, c'est-à-dire de fond pas profond, et il y a une flotte spécialisée. Chaque bâtiment représente un outil, une pelle, un râteau, etc. Mais des bâtiments de 400 mètres de long, hein, vous voyez, qui fabriquent ces îles en un temps record. Donc nous sommes dans un monde qui dépendra de la capacité à avoir un domaine maritime et de l'utiliser intelligemment. C'était mon coup d'éclat dans Osons la mer, effectivement. Mais c'est difficile, grâce à des mécènes. Cet ouvrage avait été donné à toute la représentation nationale, députés, sénateurs, CESE. On a affaire parfois des gens débordés, donc je suis pas sûr qu'ils l'aient lu. Mais vous savez, aujourd'hui, comme me l'a dit un ancien Premier ministre, ce que vous me dites là, c'est bien, mais c'est pas mon successeur, c'est mon deuxième successeur qui pourra, je dirais... Oui, mais vous m'avez rappelé à l'instant que vous venez d'être grand-père, donc c'est pas mal. Mais en même temps, me fait-il comprendre, c'est autant d'argent, si en l'époque du Covid, c'est autant d'argent que je ne mettrai pas pour créer des lits de réanimation dans les hôpitaux, c'est autant d'argent que je ne mettrai pas pour faire mes prisons. Oui, mais il est où l'époque du plan? Alors, c'est
absolument
vrai que le plan, quand on avait 5 ou 6% de croissance, ça passait mieux. Hein,
oui.
Mais... aujourd'hui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Tous mes étudiants veulent faire la géopolitique. Ça, c'est touchant, parce qu'on pense toujours géopolitique internationale. Mais vous avez une géopolitique intérieure. Hein. Une géopolitique intérieure, en fait, la géopolitique, c'est une articulation entre l'espace et le temps. C'est l'aménagement du territoire. Quand vous savez, on en a déjà parlé sur votre antenne, mais que tout passe par conteneurs aujourd'hui, en dehors du gaz
tout
et du pétrole, et que 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam.
Absolument.
Que si vous prenez la région PACA avec Marseille en son cœur, c'est 1 conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe toujours par ce range nord, Anvers, Hambourg et Rotterdam. Le premier port français se trouve en Belgique, qui s'appelle Anvers.
Absolument.
Et la région la mieux reliée de ce pays s'appelle l'Alsace-Lorraine.
Absolument.
Ce qui veut dire, tirons-en les conséquences, que plus une entreprise se décale du quart nord-est de la France, plus elle se décale, moins elle sera compétitive. Quelle est l'entreprise qui n'a pas besoin d'importer pour produire, qui n'a pas besoin d'exporter pour vendre?
C'est fini.
Alors attention, parce que l'avant-dernière venue en Europe du président chinois, c'était en juin 2019, c'était juste avant la Covid partie, il a commencé par l'Italie. Pourquoi a-t-il commencé par l'Italie? Parce que l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué des accords séparés avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie, parce que la Chine va cofinancer leur raccordement terrestre, au niveau terrestre que ça joue le maritime, des 3 grands ports italiens du Nord, Gênes, Savone, Trieste. Ce qui veut dire que si nous, Français, nous, Européens, dans les 10 ans qui viennent, il y a moins de 10 ans maintenant, 8 ans, on ne raccorde de pas, vraiment, vraiment. Tout Marseille à Lyon et de là, on a tous les canaux européens. On aura planté pas seulement les entreprises, mais tous ceux qui vivent dans le quart sud-est de la France. Donc vous voyez, tout se tient quelque
chers
part. Prenons du recul.
Chers auditeurs, écoutez bien ce qui vient d'être dit. C'est l'essentiel, c'est l'avenir de la France. Notre invité a tout à fait raison, tout à fait raison. Les Chinois sont déjà... Actuellement, je suis en train de me poser des questions. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe en Russie, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on est sur le court terme. Les seuls qui soient sur le moyen terme actuellement, la Chine avec ses routes de la soie, elle est en train...
Et les États-Unis, par certains côtés.
Je vous demande 2 secondes pour passer à Babino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Nous reprenons.
On peut reprendre. Oui, vous êtes en train de nous dire que Trump est... Mais Trump n'est pas politique. C'est un homme d'affaires, c'est un représentant. C'est ça le problème, c'est du court terme.
Oh,
du
il a plusieurs problèmes. Il y a une stratégie quand même par derrière. C'est difficile à déchiffrer parce que l'homme est changeant, mais le fait de ne pas savoir ce qu'il va faire, ça ouvre tout le champ des possibles. Donc c'est agaçant. L'homme est assez insupportable, pour ne pas dire totalement insupportable.
Totalement.
Mais il y a quand même une stratégie du pétrole derrière. N'oublions pas que c'est pas l'Arabie Saoudite qui est le premier producteur. Ce sont les États-Unis, deux, la Russie. On a donc la première puissante productrice de pétrole qui s'est arrogé le Venezuela, qui représente de surcroît 17% des réserves pétrolières en plus, qui aujourd'hui a mis totalement hors circuit l'Iran, c'est-à-dire qui est un autre grand producteur, ce qui favorise d'ailleurs le cours du pétrole russe, ce qui facilite un rapprochement. Vous savez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, j'aimais beaucoup la vision de De Gaulle qui disait « il faut faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». Alors, la formulation laisse peut-être à désirer.
Oui, l'Europe des nations.
Oui, de l'Atlantique à l'Oural. Mais c'était aussi cette complémentarité entre l'Europe et la Russie. Bon, s'il explique ça à Poutine aujourd'hui, le mot « Oural » est un peu limitatif par rapport aux frontières que Poutine veut se donner. C'était la vision de Gorbatchev. Nous étions dans un monde où il y avait 3 ensembles dans le Nord.
Oui.
L'Américain, l'Européen, le Russe. Tous ceux qui ont 3 enfants savent qu'il y a un problème si l'un des enfants est souvent seul contre les 2 autres. Cette complémentarité évidente, presque naturelle, entre les États-Unis et l'Europe, parce que la Russie a toutes les matières premières, à gogo.
Elle est riche.
On va arrêter de pleurer à n'en plus finir. On a globalement de l'argent. On avait encore plus d'argent qu'aujourd'hui. Et toute la technologie. Mais ça, c'était inacceptable pour les États-Unis d'Amérique.
Absolument.
Et c'est passionnant pour l'historien que je suis. Il y aurait quelque chose à écrire, même si ça ne sera pas un ouvrage scientifique, donc pas vraiment universitaire. C'est que les Américains, avec brio, intelligence, ont posé des faits bruts, qui vont provoquer des caisses de résonance dans les médias, ce qui explique que cette complémentarité entre l'UE et la Russie ne s'est pas faite. Et je vous le dis en mille, on n'est pas loin du moment où ce sont les Russes et les Américains qui vont se rapprocher, ne serait-ce que parce que les États-Unis ne veulent pas laisser les Russes totalement filer dans les mains chinoises.
Absolument.
Donc chacun son domaine de prédiction, de garantie, ses zones, mais il faut que la Russie ne tombe pas dans un camp. Russie, c'est pas son PIB, on l'oublie toujours. Avant la guerre en Ukraine, parce qu'aujourd'hui ils savent plus et nous non plus où ils en sont, mais le PIB russe n'est pas celui qu'on pouvait imaginer par rapport à l'importance.
Portugal, à peu
c'était
près.
En celui de l'Espagne et de l'Italie,
oui.
C'est pas négligeable, mais
oui,
c'est
oui.
Pas forcément ce qu'on imagine. C'est quand même... Vous avez 3 grandes réserves de matières premières, une seule dans l'hémisphère sud, c'est le Brésil, 2 dans l'hémisphère nord, le nord du Canada, et surtout la Sibérie. Les Américains ne peuvent pas se permettre de laisser la Russie totalement dans les mains,
en quelque sorte,
de la Chine. Donc, c'est compliqué. Il y a les États-Unis et la Russie, bon, et puis il y a un certain nombre de grands féodaux dont faisait partie l'Iran, dont font partie les Européens, même si ils sont tous d'accord pour que l'Europe... Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre la tête sous l'eau de l'Europe? Parce que cette Europe, elle a du potentiel. Elle a du potentiel tout court, parce qu'elle a un potentiel maritime. C'est grâce à la France et grâce aux autres pays européens, nous sommes le premier domaine maritime au monde, nous avons le plus grand nombre de côtes au monde, et même grâce à Malte et à la Grèce, nous avons le plus grand nombre de navires au monde.
Oui. Tout à fait.
Et une tradition maritime. Et c'est ça que Doxy est allé chercher. Et c'est ça que le doge de Venise voulait déjà faire.
Oui,
à l'époque, c'était le potentiel montant de Venise, un peu à la chinoise, face aux géants bien établis qu'était Constantinople, qui ferait penser aujourd'hui aux États-Unis actuels.
Ce qui fait penser, parce qu'au point de vue histoire, on n'a eu qu'un roi qui s'est occupé de, un petit peu de, du domaine maritime, c'est Louis XVI. C'est bizarre.
Oui, oui. Passionné même.
Ah, oui. Alors, il y a Louis XIV. Bon, Louis XIV, malgré, parce qu'il ne faut pas oublier le grand Colbert.
Oui.
Louis XVI était le passionné. J'aurais tendance à vous dire, le maillon faible de la famille,
oui.
C'est Louis XV.
Oui.
C'est Louis XV. Oui. Alors, c'est intéressant parce que, vous savez, le pouvoir des Bourbons est un pouvoir fort et sans doute fallait-il qu'il le soit parce que nous n'avons pas choisi la bonne capitale.
Non, non.
Nous avons choisi Paris.
On n'est pas au bord de la mer, déjà.
Alors, c'est Fernand Braudel, le grand historien du XXe, qui a commencé à flairer les choses. J'ai fait beaucoup travailler mes étudiants dessus. Alors, il n'y avait pas 50 000 choix possibles. Il fallait, à l'époque, un fort bassin céréalier. Hein. Donc, bon, c'était forcément ou Paris ou Rouen. Mais si nous avions opté pour une capitale qui serait à Rouen, nous aurions une histoire politique et une histoire tout court totalement différente.
Absolument.
Parce que Rouen est toujours en 2026 le premier port céréalier européen.
Tout à fait.
Le génie anglais, ils l'ont pas fait exprès, mais c'est comme ça. C'est ça qui explique que l'Angleterre a fini par avoir le flambeau de la prédominance mondiale. C'est que Londres est toujours le premier port anglais en 2026. Donc tous les flux arrivent à Londres, partent de Londres. Donc vous n'avez pas besoin d'un État militairement tenant la bride parce que, je dirais, il y a un centre, une unité naturelle, unité économique, un système libéral ajustant à la marge les flux fait parfaitement l'affaire. Face à la France, quand vous êtes à Paris, bah, c'est pas les flux.
Non, non.
Donc c'est deux outils qui ont fait l'histoire de France, qui ont forgé l'histoire de France, l'armée. On ne va pas rentrer dans le détail, qui va remettre un peu de l'or dans la boutique lorsque certaines régions tirent à U et à Dia.
Et gagner des territoires pour les familles royales.
Bien évidemment, et des institutions musclées.
Tout à fait.
Monarchie absolue, droit divin hier, constitution de la Ve République ou ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc on voit que j'ai bien aimé le bouquin d'Alain Perfit, on l'a tous lu, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le mal français, pour reprendre le titre de l'un de ses ouvrages célèbres, c'est pas le centralisme, la centralisation, c'est une centralisation artificielle parce qu'elle n'est pas naturelle. L'Angleterre et la France, le pays le plus centralisé, c'est l'Angleterre. Londres a eu jusqu'à 10% de la population british, quand Paris n'a jamais dépassé 3% de la population française. Sauf que eux, c'est une concentration naturelle par le biais du flux, par le biais du commerce. C'est ça la réussite.
C'est ça le commerce.
Nous, c'est pas des éléments structurants, mais c'est pas ça. Faut-il rappeler, vous voyez à quel point il y a du retard à l'image, vous avez une révolution agricole précoce en Angleterre à la fin du XVIe siècle, nous on en parle dans le deuxième tiers du XVIIIe avec les physiocrates, et ça s'opère en 1960.
Oui.
La révolution industrielle, nous, c'est Napoléon III, qui est certainement pas le petit. J'adore Victor Hugo, mais là, franchement, non.
Non, il s'est gouré, enfin.
Et là, il a fait beaucoup.
Il réglait ses comptes.
C'est certainement révolution industrielle d'Angleterre au XVIIe siècle par le développement de la marine. Nous, il faut attendre. Donc, on a un retard à l'allumage. Faut-il rappeler que jusqu'à Turgot, Necker, donc dans les dernières années du règne de Louis XVI, hein, aucune région de France n'avait le droit de vendre des céréales, à une autre région de France. Je ne vous parle pas du commerce international. Comment voulez-vous que le pays marche? Nous ne sommes pas un pays de flux. Nous sommes un pays, je le dis un peu, je me mets dedans, on est tous dedans, un peu de coincé, figé, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de mouvement. Donc les régions Limoges, Clermont-Ferrand ne sont pas encore totalement désenclavées par rapport à leurs ports de proximité, rapport à leurs ports régionaux.
C'est ça le problème.
Donc nos deux grands ports, Marseille et Le Havre, ne peuvent pas marcher.
Les grands ports, en fait, les pays qui ont des capitales qui sont des ports, attirent les marchands. Ouais. On n'a jamais attiré les marchands. Je le dis depuis des années, on ne sait pas vendre. Mais parce qu'on n'avait pas besoin, ce n'était pas dans notre nature.
On ne sait pas vendre, mais c'est presque pire, Henri. Et on ne sait pas produire. On n'a pas d'industrie lourde, lourde, la tambouille, elle se fait dans les ports. Il n'y a pas de grand pays sans grand port.
Tout à fait, absolument.
Et nos ports sont mieux placés que les autres. Nous avons la chance aujourd'hui qu'il y a encore du foncier, donc on peut les développer, sauf que ça suppose, on retombe sur ce qu'on a évoqué, une politique d'aménagement du territoire.
Absolument, c'est d'acte ou pas. Dites-moi, tout à l'heure, on va changer un tout petit peu de sujet, si vous le permettez. Alors, je regarde quand même votre livre que je rappelle, Eudoxie, Lascaris, princesse byzantine. Il y a une carte dessus, la carte du prochain tourisme. Moi, je trouve que c'est magnifique, je regarde ça.
Vous pouvez faire un tour d'Europe qu'aux endroits inconnus qui valent les autres. Mais ça n'empêche pas de faire les autres. Mais on peut vraiment se faire plaisir. Et voyager un peu comme on voyageait autrefois, pour entrer dans une autre manière de voir qui nous ouvre à autre chose.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis en admiration devant la carte en disant, quel voyage. c'est quand même un sacré voyage.
Ah, c'était... Bon, j'écris un nombre de livres, mais c'est vraiment le livre que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, parce que je l'ai vécu en y allant physiquement, vous voyez, j'ai pas uniquement été à la bibliothèque, là j'ai mouillé, voilà, la chemise, allant toutes ces terres que je ne connaissais pas. Oui. Rien que d'aller à Nicée-Isnik aujourd'hui, redécouvrir Éphèse en remettant dans le contexte ce qui s'est passé à Éphèse, que ça faisait partie de l'Empire de Nicée, c'est là où Eudoxie était, donc on retrouve les textes, puis il y a des combats, hein, c'est... Il y a une belle toile de fond historique.
Je voudrais changer un petit peu de choses. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez imaginé l'intelligence artificielle. Alors, on connaît quelqu'un qui s'appelle Eric Lemaire qui s'occupe d'intelligence artificielle, qui a écrit un bouquin, que j'ai préfacé d'ailleurs, et qui parle de non-intelligence et non-artificielle. Bon. Vous parliez de ça avec l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De l'éducation de l'IA, aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas encore, je n'ai pas assez de recul, je ne peux pas dire qu'il faut prendre du recul et pas en avoir moi-même. Je suis perturbé. Je suis perturbé parce que c'est sacrément efficace. On veut faire un voyage, il suffit de demander, votre ami de l'IA va vous répondre immédiatement. Après, dans quelle mesure est-ce que ça ne va pas, d'ici qu'on ait des ouvrages uniquement écrits par l'intelligence artificielle, ça me fait peur.
Ça commence.
Ma femme a fait une expérience, parce que je la salue, elle est devenue grand-mère. Elle a voulu, parce que son petit-fils avait un pyjama, ils vivent au Canada, un pyjama de Diplodocus, elle a voulu écrire une chanson, elle n'est pas du tout, à sa petite-fille. Par l'IA, vous pouvez composer à partir de quelques mots un texte que vous pouvez mettre en musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arriver à une composition. Dans quelle mesure est-ce que la création humaine ne va pas prendre ombrage de ça, parce qu'on va arriver à des choses assez choisies, assez belles, mais quel sera l'humain et à quel rôle va se cantonner l'humain ? Est-ce que c'est uniquement dans le ressenti, mais par compilation de tout, on peut éprouver des ressentis que vous allez ressentir, mais lui ne ressentira rien ? Ça pose un problème quand même éthique. Alors, on ne peut pas interdire. Moi, je suis plus draconien, beaucoup plus strict par rapport à mes étudiants. Pas par rapport à l'IA, j'ai pas de recul, mais par rapport à la prise de notes des cours par ordinateur. C'est un vrai débat que nous avons dans les universités. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, il suffisait que l'étudiant prenne à peu près, réussisse à prendre sur ses notes en écrivant vite. Hein. 80% de ce que disait le prof, vous lisiez deux fois avant les examens, ça passait. Aujourd'hui, ils prennent tous ou quasiment tous à 90% leurs notes, si tant est qu'ils les prennent, par ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont écouter le prof, ils partent d'un bon sentiment, ils sont là, etc. Mais ils sont sollicités en même temps par plein de choses. Il n'y a plus de problème de discipline hein, pour certains collègues. Aujourd'hui, tout le monde est calme, mais c'est un calme qui parfois m'inquiète un peu. Est-ce qu'ils sont présents là ou pas ? C'est-à-dire qu'ils prennent un peu de notes, et puis ils vont répondre à un copain, et puis en même temps, ils vont réserver une place de théâtre pour samedi. Mmh. Et donc, autrefois, si vous voulez, la mémorisation est basée sur trois grands éléments. La mémoire auditive, la mémoire visuelle, et certains rajoutent, il y a aussi le fait d'écrire, le délié de l'écriture. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, vous croirez ou vous ne croirez pas, mais je vous promets que je le fais, ça fait 2 ans à mes euros que je demande à mes étudiants d'amener leurs cours, parce que j'avais un doute, et je peux vous dire que malheureusement, ce doute est levé, ils ne savent plus prendre des notes. C'est-à-dire qu'on n'a plus... J'ai posé... C'est comme ça qu'on s'est rendu compte. C'était une jeune fille, c'était l'année dernière. Je lui ai dit, mais... Il me dit, mais monsieur, je ne comprends pas, j'ai travaillé. Bon, alors je lui dis, écoutez, ou vous faites illusion, ou alors, si le problème, c'est la prise de notes. Vous avez combien de pages dans vos notes ? Ah, j'ai vu que c'était l'ultime question, je ne sais plus trop, monsieur, je ne sais plus, 20, 25 pages. Je lui dis, écoutez, j'ai 70 fiches, comme vous savez, je suis plutôt bavard sur chaque fiche, je m'aurais dit 80 pages, j'aurais dit, ok, mais... Il y a des trous, ils prennent, et puis il n'y a plus de trous. Et puis c'est une prime à l'absentéisme ou au retardataire, parce que par solidarité, vous n'êtes pas là, on va envoyer par l'ordi. Et donc, ils se trouvent à la fin, en demandant quasiment aux meilleurs de prendre note, les meilleurs envoient ça à l'ensemble de l'amphi, mais c'est un texte qui est brut. Oui. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont pas visualisé simultanément, ils ne l'ont pas écrit non plus, et donc fin, ils ont un mal fou.
Et en plus, il faut le lire.
Oui, un peu volé. Et donc, ils ont un mal fou à rentrer. Et puis, ceux qui vont pas jusque-là, mais qui prennent des notes, et puis après, ils font autre chose, puis après, ils reviennent, il y a un trou au milieu. Ils tombent dans le trou, ils s'en relèvent pas. Vous avez certaines facs que je n'aimerais pas, mais je pense qu'elles ont raison, qui commencent à vouloir interdire la prise de notes par ordinateur dans les cours magistraux. Je crois qu'on va en arriver là. Alors, c'est vrai que je préfère laisser les jeunes faire le boulot, parce que quand vous prenez de l'âge, vous dites, ah, c'est un vieux barbon qui n'aime pas l'électricité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un problème de concentration.
Tout à fait.
Avec un phénomène de zapping qui est assez incroyable. Les films que nous aimons, parce que ce sont ceux que nous avons vus il y a 5, 10, 15 ans, aujourd'hui, ça passe moins chez les jeunes. C'est lent, on me dit, mais c'est lent,
oui,
c'est lent.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent.
Donc aujourd'hui, il y a un problème de concentration, un problème de difficulté à approfondir l'analyse, parce qu'ils ne lisent plus, on s'en a expliqué tout à l'heure. Donc, d'instantanéité, en quelque sorte, qui fait qu'on n'a pas ce recul. Mais c'est un peu tout. Hein. On parlait de la mer tout à l'heure. Bon, j'ai un rêve, vous parliez des médias dans votre bel édito, Henri, tout à l'heure. Bon, les politiques ne s'intéressent pas plus à la mer que ça, parce que le poisson n'ayant pas le droit de vote, ça ne fait pas d'électeurs, même s'il y a quand même un lobby maritime de 500 000 personnes. Depuis qu'ils en ont pris conscience, ça y est, ils se mobilisent lorsqu'on fait nos assises de l'économie maritime. Mais globalement, il faudrait qu'on ait une autre vision.
Tout
et je
fait.
Pense que si les journalistes, si dans les grandes écoles de journalistes, on crée un module pour expliquer ce que c'est que la mer aux journalistes. Moi, j'ai découvert que beaucoup de journalistes ne mesurent pas les flux. Lorsque l'Evergreen, ce porte-conteneur, s'était vautré dans le canal de Suez il y a quelques années, ils m'avaient invité, ils m'ont dit « Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une crise pétrolière, un choc pétrolier ?» Je dis « Non, c'est pas par là que ça passe. Hein. » Mais par contre, les microprocesseurs qui viennent d'Asie, ça peut être un problème. Et je me dis « Mais tant qu'on ne donnera pas, mais toute petite formation aux journalistes sur l'importance de la mer, les enjeux, ça ouvre totalement à la géopolitique du monde. Ils ne poseront pas les questions aux hommes politiques, mais le jour où ils poseront ces questions aux hommes politiques, ces hommes politiques, ils ont sans doute de bonne volonté pour la plupart, ils seront bien obligés de demander à leurs collaborateurs des éléments de langage, et ça leur fera une pédagogie de la mer.
Absolument.
Donc, voilà, s'il y a des patrons d'écoles de commerce, voilà,
mais vous avez tout à
l'écoute,
fait.
Je pense que ça serait bien.
Vous avez tout à fait raison, et c'est là le gros problème. Ils ne savent pas, donc vous ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Et puis, il y a un manque de recherche quand même. Je me souviens dans le temps, quand j'étais gamin, s'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas. Ben, ma mère était institutrice, donc ça, il faisait les choses, mais on était obligé de courir chercher un dictionnaire pour faire de la recherche, chercher le sens du mot, etc. Moi, je regarde chez les gamins, chez les parents, il n'y a pas de dictionnaire. Internet.
Ah, ça c'est
un bon substitut quand même, là.
Oui.
Internet, le dictionnaire.
À condition que ce que vous cherchez soit exact.
Ah, bien entendu. Bien entendu.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut transformer nos cours de méthodologie à une méthodologie de travail avec l'IA, avec Internet, avec tout ça. On peut plus se contenter à faire, si vous voulez, de la méthodologie sur les sources anciennes. C'est très bien. Mais je dirais aujourd'hui, on est un peu déconnecté de la réalité. Je dirais, il y a un phénomène d'urgence aujourd'hui. Et en phénomène d'urgence, il faut parer au plus pressé. Je critique pas ce qu'on faisait autrefois. Loin s'en faut. Mais là, aujourd'hui, nous rentrons dans un phénomène d'urgence. Et j'en profite pour le dire parce que, je veux pas tirer sur l'ambulance. Je les adore, mes étudiants. C'est un formidable métier. Mais ils vont pas bien. Hein. Ils vont pas bien, nos jeunes. Et je le dis avec beaucoup de tristesse. Hein. Il y a des amis qui travaillent à la cité universitaire. Bon, dans le cadre, vous savez, des visites médicales, etc. Les équipes de psychologues, voire même de psychiatres, ont été très largement renforcées depuis plusieurs années. Ça ne suffit pas, ça tourne à plein. Ils vont pas bien, sans doute, par tout un tas d'éléments. Et j'en reviens à l'histoire. Oui, c'est vieux, on parlait d'Odoxie-Ascaris. Oui, c'est vieux, le 13e, 14e siècle. Mais quand vous connaissez pas notre histoire, quand vous connaissez pas notre valeur, vous avez pas de recul, vous êtes un petit peu perdu. Vous vous déterminez par les autres. C'est sympathique, les autres. Hein. Mais quelque part, on est dans une espèce de pâte osmotique par le biais des médias, etc., de tout ce que vous voulez. Il est important d'être en contact avec les autres, mais quelque part, on est tous perdus, mais on est tous dans la même galère et quelque part, ça donne du sens. Non, ça ne donne pas de sens. Et mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai le sentiment que nos jeunes, et c'est formidable, ils sont en quête de sens. parfois même un peu caricatural, avec une volonté de recherche de verticalité, de bonheur, etc. Ils ne sont pas prêts à tout, hein, ils ne sont pas prêts à travailler dans n'importe quelle entreprise, ils ne respectent pas l'environnement, ils n'iront pas non plus s'il n'y a pas un certain nombre de jours de télétravail et tout ce que vous voulez, puis ça ne leur plaît pas de manière de rendre pure conventionnelle, et puis si vous êtes les parents, vous allez dire, bon, ok chérie, ça ne t'a pas plu, bon, lundi prochain, là, après le week-end, tu vas chercher un nouveau boulot, ils vont vous dire carrément, bah non, j'ai travaillé 6 mois, j'ai payé mes droits à la retraite, pas à la retraite, excusez-moi, pas des droits au chômage, donc je vais partir faire un voyage, je vais m'ouvrir les horizons. Donc je crois quelque part, là où c'est difficile, là où c'est poignant, et c'est quelque chose qui est douloureux pour eux comme pour nous qui les approchons de près, c'est quand ils cherchent du sens, c'est qu'au bout de 2-3 ans, ils ne trouvent pas de chance, parce qu'on n'a peut-être pas ce recul, parce que peut-être qu'on n'a pas assez de connaissances,
c'est sûrement
vrai. Quelque part, c'est désespérant. Oui. Donc quelque part, tout le monde est responsable et personne n'est responsable, mais cette quête de sens, elle remonte presque aux parents. S'ils sont en quête de sens, c'est peut-être parce que la génération de Jésus est un peu hors sol et a perdu le sens. Et c'est génial, la quête de sens, quelque part.
C'est ce que j'allais vous dire.
Donc l'histoire, la rigueur, la lecture qui aide à discerner l'essentiel.
Absolument.
Qui est cette musculation intellectuelle. Certains font des pompes. Nos pompes à nous, humains, ça devrait être en plus de l'haltérophilie, hein, mais de lire. Lire, on l'a dit, ça développe l'analyse grammaticale, absolument, c'est-à-dire votre capacité à vous projeter.
Il y a aussi quelque chose...
La presse écrite, on ne la lit plus. Hein.
Dans le temps, nous avions... Bon, je suis un vieux machin, mais dans le temps, j'avais des profs à l'école qui me donnaient envie de lire, envie d'apprendre. Est-ce que c'est toujours le cas?
Sans doute, oui, on ne peut pas généraliser. Heureusement, il n'y a que des cas particuliers. Mais globalement, ce n'est plus les profs qui font rêver aujourd'hui. Je crois qu'il y a d'autres héros mythiques, mythologiques, etc., qu'on peut trouver. Bon, on n'est pas en concurrence avec Harry Potter, mais quelque part, c'est plus tout à fait ça, quoi. Le prof, il est là, bon, s'il ne nous casse pas trop les pieds, ça ira bien. Il y a peut-être un peu moins l'esprit curieux qui était vraiment un ressort, un moteur pour beaucoup. Aujourd'hui, l'esprit curieux, il est moins là-dedans. C'était une colère. Nos jeunes sont en colère, mais je peux les comprendre. Une colère parce que la planète va pas bien, hein, sur le plan de la nature. Une colère parce qu'on sait pas très bien où l'on va.
Il n'y a pas d'avenir.
Une colère parce qu'ils considèrent que nous, les aînés, on a saboté la planète, donc on n'a qu'une seule chose à faire, c'est à la fermer, et c'est pas faux. Et donc, quelque part, ils se posent beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui ne trompe pas. Hein. Mon maître était Pierre Chenu, c'était un grand démographe français. On va vers un effondrement démographique.
Je suis d'accord.
Hein, j'ai été au Japon récemment. J'ai vu plus de chiens se promenant dans des poussettes le dimanche que d'enfants. Hein, donc, quelque part, aujourd'hui, on ne croit plus en l'avenir.
En rien.
Alors que le monde est beau.
Magnifique.
Vous l'avez compris à travers ce livre, moi, c'est les voyages. J'aime les voyages, je le dis avec un peu de honte. Honte non, parce qu'il faut assumer, il faut se faire plaisir. Moi, je suis pour l'environnement, je me suis beaucoup battu toute ma vie pour l'environnement, mais je veux pas un environnement punitif. Donc, j'aime voyager parce que c'est d'autres senteurs, d'autres couleurs, etc. C'est d'autres vies, d'autres personnes, d'autres manières de voir. Et je pense que c'est un formidable enrichissement. Et on est dans un monde fabuleux qu'on ne connaît pas. Donc, il faut voyager, se faire plaisir et sortir de la routine et simplement du petit train-train. L'aventure est toujours au rendez-vous. Ça peut être un sens, l'aventure aussi, en toute catégorie, géographique, historique, spirituelle.
C'est un sens. L'aventure est un sens. C'est vrai que peut-être manque-t-il à nos jeunes de faire une guerre.
Voilà, me dites pas ça. Non, ça, il n'y a rien de pire. Vous savez, si nous avons nos niveaux de vie, le pouvoir d'achat qu'est le nôtre aujourd'hui, c'est que notre génération, au sens large, a eu la chance extraordinaire de ne pas connaître de la guerre. Donc, je sais bien qu'on disait autrefois, il leur faudrait une bonne guerre. Mais globalement, fait de ne pas avoir de bonne guerre, qu'est-ce que ça marche mieux, hein, quelque part.
C'est là que je m'aperçois que je suis un vieux machin, parce que je suis né juste avant la guerre. Alors, je le dis tout le temps. Sous la Troisième République, je suis un enfant de la Troisième République, même si ça a duré quelques jours. Le président de la République de l'époque, dont tout le monde se fout, s'appelait Albert Lebrun. Il venait d'être réélu pour 7 ans. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Pétain l'a complètement oublié. Le général de Gaulle l'a vu arriver dans son bureau en 1944 en disant « Je suis président de la République, je démissionne ». Je trouve que c'est une aventure sensationnelle.
Il y a quelque chose à écrire aussi.
Ah, après, les gens de mon âge... À 20 ans, sont allés en Algérie. Bon, joli voyage à l'époque, si vous voulez. Mais bon, donc on a vécu des aventures quand même. Moi, j'étais bercé par les aventures quand j'étais gamin, la guerre d'Indochine. on entendait par... C'est drôle, ça nous faisait vivre quand même.
Mais nos jeunes aujourd'hui sont passionnés par l'environnement.
Oui.
Ben, banco, parce que oui. C'est génial, on ne connaît pas grand-chose, on l'évoquait, pas plus de 3% de la microbiologie marine nous est connue. On est dans le monde de l'infiniment petit, notamment en mer. 99,9%, c'est totalement invisible à l'œil nu le jour où on pourra passer le mur de la vision, c'est-à-dire avoir des microscopes tellement plus puissants, mais notre santé, notre bien-être vont... Donc l'aventure, elle continue, et je crois que à travers le voyage, à travers l'environnement, la beauté de la nature, je crois que c'est une école de vie, une école de méditation qui peut, je dirais, renforcer quelque chose qui nous manque beaucoup, qui est l'émerveillement. Moi, je m'émerveille, bon, je suis émerveillé, je suis tombé amoureux, je le disais, c'est une forme d'émerveillement de Doxy Oscaris, ma princesse byzantine. Mais,
et même de Céline Dion, si j'ai bien compris. Mais enfin bon.
De la musique, enfin la musique, oui, des chants de Céline Dion, aussi, l'art de façon générale.
Oui.
Mais globalement, je pense qu'ils ont tout pour trouver, c'est-à-dire au lieu. Il faut pas voir le verre, il faut arrêter de voir le verre à moitié vide, ça c'est sûr, c'est ce qu'on fait. Il faut même faire mieux que voir le verre à moitié plein. Je pense qu'il faut aujourd'hui sortir du verre. Quand vous rentrez dans un nouveau temps de l'histoire, il faut remettre les choses à plat, prendre du recul, essayer de discerner l'essentiel. Et c'est ce que voulait dire Malraux. J'aime bien dire cette phrase de Malraux parce que c'est pas faire du prosélytisme religieux. Malraux était agnostique. Et il disait, on le sait tous, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas.
Et
la question, elle est véritablement là. On veut y tendre, mais on n'a plus les soubassements spirituels, donc faire du spirituel sans connaissance, je dirais, de toute forme d'éveil, quel qu'il soit. Et je pense vraiment, j'avais travaillé ça à travers la mer, la place de la mer dans les grandes religions monothéistes. J'avais comparé ça au monde, au bouddhisme, à l'hindouisme, même à la psychanalyse. La mer, quelque part, est l'élément de réconciliation.
Tout à fait.
La vraie vie, métaphoriquement, est une traversée. Alors chacun ira de ses conseils, hein, mais faire une traversée, ça veut dire qu'il faut se jeter à l'eau. Oui. Et une traversée maritime. Se jeter à l'eau, c'est quoi? Je le dis parfois à mes étudiants, c'est intéressant, parce qu'ils sont vraiment chouettes, ils sont ouverts. La vraie vie, c'est pas de rester enfermé chez soi avec la dernière série Netflix, elle est absolument géniale, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que même, c'est vrai, même si vous descendez au passage clouté, il peut toujours y avoir un dingue qui vous renverse. La vraie vie, c'est se jeter à l'eau. C'est-à-dire, c'est accepter le mouvement, c'est accepter l'impermanence, c'est accepter le changement. Et le fait que la France n'ait pas été...
C'est même le chercher s'il y a besoin.
C'est même le chercher. Le fait que la France n'a pas été un grand pays maritime explique que, quelque part, les Français sont un peu hostiles au changement.
Absolument.
Toute nouveauté, ça ne va pas. Mais la vie est dans la nouveauté. La vie est
tout
une traversée.
D'accord,
de temps en temps, il faut faire la fête sur une île, puis on repart le lendemain. Mais il faut se jeter à l'eau. Accepter de prendre des risques. J'aurais tendance à dire, moi j'essaye de contribuer à mon petit niveau à maritimiser les esprits, c'est un peu pleine vie, pleine mer. Et quand on parle aux étudiants, ils aiment bien ce genre de choses. Hein. Mais quelque part, il ne faut pas hésiter à les booster de temps en temps, à avoir un dialogue franc, parce qu'ils vous respectent si vous avez un dialogue franc.
Tout
ils vous
prennent
pour une
quiche
de toute manière si vous vous adoptez à tout, si vous voulez faire le jeune alors que vous ne l'êtes plus.
Non, le gros problème, quand vous êtes dans un monde dominé par le dollar ou dominé par des fonds de pension extrêmement... dominé par la finance. Il n'y a rien qui vous fait rêver. Hein.
Ah, mais ils ne veulent plus forcément travailler dans ce genre de choses.
Ah ben non.
Ils ne veulent plus. Donc,
c'est là le problème.
Ils sont bien, nos jeunes. Ils sont bien. Il faut leur dire, parce que c'est vrai que souvent, on leur fait des reproches. Ils sont bien. Ils ont le sens du questionnement. Mais à un moment donné, il faut les réponses. Et les réponses supposent du boulot.
Oui.
Hein, c'est ce qu'on fait quand on pose une question, une problématique, un sujet de dissert, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut répondre. Mais est-ce qu'ils ont les outils aujourd'hui culturels?
Est-ce qu'on leur donne
la méthodologie?
Est-ce qu'on leur donne? Est-ce qu'on leur explique? Est-ce qu'on les guide?
C'est compliqué, vous savez.
Oui.
C'est très bien parce qu'on a augmenté globalement le niveau d'études. Bon, il y a plus de bacheliers, enfin, vous connaissez ça. Bon, après, on a baissé le niveau aussi pour pouvoir avoir répondre aux objectifs politiques. Aujourd'hui, on a beaucoup nivelé, ce qui est un problème. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vois pas comment on pourra faire un... Vous savez, probablement plus d'étudiants à Paris que dans toute la France en 1970.
Oui,
on gère des flux. On est des flux. On est dans une société de flux aujourd'hui.
Mais quand même, il y a les
besoins.
Avec
les banques de liberté que ça suppose. Hein.
J'ai invité ici le président d'un syndicat d'ingénieurs et qui nous disait, il n'y a plus d'ingénieurs. Et quand vous prenez les médecins, il n'y a plus de médecins. Et quand vous prenez... Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a fabriqué de nos étudiants?
Ils sont en recherche, mais il faut qu'ils trouvent.
Ils sont.
Il faut qu'ils retrouvent, il ne faut pas hésiter à prendre du recul. Vous savez, enfin, pas une propagande religieuse, mais sans, peu importe, dans toutes les religions, ça peut se pratiquer. Faire une semaine de silence dans un couvent, dans un ce que vous voulez, ça fait du bien.
C'est possible, je sais pas.
Ça fait du bien.
Je suis pas. C'est pas
on se pose
pas
des questions,
mais...
on se pose des trucs, on prend du recul, on a une autre manière de voir, on tourne plus de la même manière autour du frigidaire familial. Même de partir à l'étranger en voyage. Erasmus, ça a été, moi j'ai bien vu avant et après Erasmus, les étudiants qui sont partis en Erasmus, ils reviennent, ils sont changés.
Oui.
Même si c'est l'Espagne ou etc., donc pas des pays radicalement différents, ça leur fait un bien fou. Ça, ça a été un apport considérable et il faut
et
que ça puisse continuer.
Et ils reviennent parce que, mais...
C'est d'autres rencontres, on sort de son train-train. C'est la vie.
Je crois que c'est
on
ça.
On a une religion, enfin, on a les religions chrétiennes sont très claires. C'est mieux que se jeter à l'eau. C'est avance au large. C'est même pas du cabotage. C'est avance au large. Avance vers l'inconnu, avance vers le mystère, avance vers la vie. Donc, il y a des trucs, ça vaut le coup tout ça. On peut pas s'ennuyer, il y a trop de trucs à faire. Il y a de quoi être en colère, mais il y a trop de trucs à faire.
Oui, tout à fait. Mais moi, je pense qu'on a une très belle jeunesse. Simplement, il ne faut pas qu'on la gâche, il faut qu'on s'en serve et qu'elle serve le pays dans les fois d'après. Christian Buchet, je vais vous remercier d'avoir, et vous avez tenu toute l'émission alors qu'on devait avoir avec nous Olivier Gouin qui s'est perdu je ne sais pas où. Je rappelle votre livre « Eudoxie Lascaris, princesse byzantine, une femme libre dans l'Orient médiéval », un livre fort intéressant qui demande quand même de la culture.
C'est une manière aussi de la découvrir, sous forme de jeu et de parcours historique et géographique, parce que c'est une grande... Ça a été plusieurs milliers de kilomètres.
Vous nous avez fait voyager, vous nous avez instruits, vous nous avez parlé de croisades qu'on oublie un petit peu. On est parti sur d'autres croisades actuellement. Bref, moi je suis très heureux de vous avoir invité et je vous remercie.
Et ben moi j'étais très heureux également de participer.
Merci Christian. Dernière, prochaine
et merci
émission.
À l'écoute de nos éditeurs.
Prochaine émission.
Oh ben on sait pas, c'est pas grave, Alain.
Oui, on vous le dira tout à l'heure.
Je vous remercie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrault, assisté d'Anna Raoult. Émission préenregistrée le 12 mai 2026 et diffusée pour la première fois mardi 26 mai 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.